12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
À suivre, vos témoignages après les pluies torrentielles qui se sont abattues vendredi et samedi sur Kinshasa. Le dernier bilan communiqué hier par le ministre de la Santé fait état de plus de 30 morts et plus de 5000 familles sinistrées. Les dégâts matériels sont énormes, plus d'une centaine de bâtiments noyés sous les eaux, éboulements et glissements de terrain, routes coupées. À l'est de la capitale, c'est la rivière Djili qui est sortie de son lit. La décrue a certes commencé depuis hier. Certains quartiers sont donc de nouveau accessibles, mais l'alimentation en eau et en électricité reste compliquée. C'est ce que nous racontent d'ailleurs certains auditeurs sur les messages envoyés sur le compte WhatsApp de l'émission. Racontez-nous ce matin comment s'organise la prise en charge des sinistrés. Vos témoignages évidemment nous intéressent. Et dites-nous quelles leçons faudra-t-il tirer de ces importantes inondations, d'autant que ce n'est pas la première fois que Kinshasa est confronté à des pluies diluviennes. Il y a 3 ans, au moins 120 personnes avaient trouvé la mort. En tout cas, plusieurs associations et organisations de la société civile appellent à la démission du gouverneur de la capitale. Vous nous appelez 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. J'ai sous les yeux celui d'Élie. Élie qui nous parle de pluies diluviennes aux allures apocalyptiques. Les trottoirs se sont transformés en grandes rivières urbaines incontrôlées. Et Élie nous dit habiter le long de la rivière Djili. J'ai perdu tous les biens de ma maison. Bonjour Élie.
Bonjour cher Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous nous avez envoyé ce témoignage extrêmement long. On avait envie donc de vous donner la parole, c'est normal de vous entendre. Vous disiez que depuis 2 jours, vous vivez dehors à la Belle Étoile.
Effectivement Juan, je passe nuit à la Belle Étoile, je n'ai pas où aller. Il y a ma femme d'ailleurs qui venait de mettre au monde, il y a mon dernier fils qui a 5 jours aujourd'hui. Ma femme, elle est bloquée à l'hôpital, elle ne sait pas où aller. On a perdu tout le bien de la maison. Notre maison est détruite. Nous ne savons pas où aller. Je vous dis même, j'ai été arrêté parce que je me plaignais en tant que victime face à l'État. On m'a arrêté, on m'a mis au cachot. J'ai passé presque toute la journée de l'avant-hier au cachot. Où j'ai dû payer une amende lourde, moi qui êtes victime, moi qui êtes dépouillé.
Oui.
Dans quel état nous sommes? Dans quel état nous sommes? J'ai vu le président de la République visiter
hier.
Le ministre.
Hier, il s'est rendu au stade Tata Raphaël, qui s'est transformé en centre d'urgence pour accueillir les sinistrés. Vous êtes allé sur place ou pas, Élie?
Moi, ce matin, j'ai passé au stade Tata Raphaël, je suis maintenant au stade des martyrs. Je vous dis, je suis un témoin oculaire. Il y a un désordre absolu, un désordre total. Il y a certains même qui n'ont pas encore reçu les macarons. On ne sait pas où aller, comment est-ce que les choses sont organisées ici.
Ouais.
On ne sait pas, on a tout perdu.
Mais excusez-moi Élie, est-ce que vous avez pu vous réfugier dans un des centres mis à la disposition des autorités? Vous parliez du stade Tata Raphaël où s'est rendu effectivement hier le chef de l'État. Il est allé à la rencontre des sinistrés. Vous parliez du stade des martyrs où vous êtes visiblement à l'heure actuelle. Il n'y a pas de place pour vous Élie, pour vous et votre famille?
Je vous dis, il n'y a pas de place. Vu que ma femme, elle vient d'accoucher à peine, il n'y a pas moyen de l'amener ici avec un bébé au risque que le bébé puisse obtenir les microbes,
bien
être
sûr.
Contaminé.
Mm-hmm.
Je vous dis qu'il n'y a pas de place. Moi, je suis en dehors du stade, il n'y a pas de place. Il est certes que le président de la République a visité les prières. Mais je vous dis, j'ai été au stade des Martyrs, on nous a renvoyé ici. J'ai été au stade de Raphaël, on nous a renvoyé pour l'enregistrement. On est là, on n'est pas encore enregistré. Je vous dis, il y a un désordre absolu. On ne sait pas, donc pourquoi notre État fonctionne comme ça?
Ouais.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, Juan?
Pourtant, hier, le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, disait que la première des urgences était de s'occuper des sinistrés. Vous avez l'impression d'être livré à vous-même, Élie?
Juan, je vous dis, quand le ministre Jacquemin et le gouverneur sont venus dans mon quartier, moi j'étais là. Ils ont donné 100 dollars aux gens qui travaillaient avec les pirogues, qui évacuaient les populations. Je vous dis, ils nous ont rien promis. Quand ils sont venus, ils ont pris des images de nos maisons détruites et puis ils sont repartis, je vous dis, one. Mais pourquoi les gens veulent créer une sorte de fantaisie? Pourquoi ça?
Ouais.
Et pourtant, nous,
Élie, en tout cas, on vous sent en colère et en même temps livré à vous-même, ne sachant pas où vous dirigez pour vous loger, pour pouvoir récupérer votre épouse et votre bébé, né il y a donc maintenant 5 jours. Merci en tout cas, Élie, de votre confiance. Vous savez quoi, on garde le contact. Vous avez la chaîne WhatsApp, vous avez le numéro WhatsApp de l'émission. Tenez-nous au courant. Dans le courant de la journée, justement, de l'évolution de votre situation personnelle, et on prendra de vos nouvelles vendredi dans la libre antenne. Je vous lis le commentaire envoyé par Jokatu à Kinshasa. Il se dit triste pour les sinistrés, triste de voir comment nos dirigeants attendent toujours la dernière minute. Aucune politique sérieuse pour le ramassage des déchets, aucune mesure pour contraindre la population à ne pas jeter les déchets dans les rivières et caniveaux. Oui, c'est une catastrophe naturelle, mais les mesures préventives peuvent limiter les dégâts. Jokatu pointe du doigt, lui, le comportement des Quinois et des Quinoises qui, visiblement, jettent leurs déchets un peu partout, n'importe où. Et lorsque les caniveaux sont pleins et qu'il pleut énormément, eh bien, on en voit les conséquences aujourd'hui. Bonjour Josué.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous habitez, vous, le quartier de Lemba, c'est bien ça ?
Exactement, donc, moi je suis à Lemba.
Pas Lemba, donc pas directement concerné par les inondations ?
Pas directement, donc pour cette fois-ci, si je peux dire, pour cette fois-ci, oui.
Pourquoi ? Mm-hmm. Les fois précédentes, vous aviez les pieds dans l'eau ?
Oui, bon, les fois précédentes et tout, il y a eu des inondations dans mon quartier et tout, donc vous trouvez l'avenue complètement inondée suite à la mauvaise gestion des déchets plastiques, des ordures et tout ça. Donc, ce sont des choses qui arrivent et comme à chaque fois, l'État ne prévoit rien, l'État ne prend pas des mesures qui feront en sorte qu'on puisse limiter les dégâts, comme je l'ai dit.
Ouais. Mais Josué, est-ce que ce n'est pas trop facile de pointer du doigt la responsabilité uniquement de l'État ? Est-ce que, je le disais tout à l'heure, vous, Quinois, Quinoises, vous n'avez pas aussi votre part de responsabilité ? Quand on voit l'insalubrité dans certains quartiers qui, forcément, bouche les caniveaux, quand il pleut, comme il a plu vendredi et samedi matin, forcément, l'eau ne peut pas s'écouler puisque les caniveaux sont bouchés.
Non, Juan, je dirais à ce niveau-là, les responsabilités sont partagées. L'État doit faire sa part de responsabilité qui est la plus grande. Mettre une politique qui fera en sorte de contraindre la population à ne pas jeter les déchets dans les caniveaux. Parce que si l'État ne met pas des poubelles publiques, des moyens pour évacuer les déchets, tout ça, bon, la population fait quoi ? Moi, je peux prendre des mesures chez moi. Je peux mettre les ordures chez moi, je les entasse quelque part. Mais une fois que c'est plein, je ne vais pas les faire disparaître. Il faudrait les évacuer. Que l'État mette des usines de transformation, des recyclages, des bouteilles plastiques qu'il y a partout dans la ville. L'État ne fait pas sa part de responsabilité. Parce que si l'État mettait les moyens pour ça, et allait contraindre maintenant la population à respecter ces mesures.
Mais alors, vous parlez de moyens, Josué. C'est un manque de moyens financiers ou finalement un manque de volonté ? Parce que j'écoutais Patient Ligaudy du service Afrique de RFI qui a pu s'entretenir avec plusieurs scientifiques et il disait tout à l'heure que les scientifiques estiment que le coût des réparations sera 10 fois supérieur à celui de la prévention.
Mais exactement, Juan, on le dit tous les jours. Ça a été dit qu'il y avait des pluies qui allaient arriver. Mais qu'est-ce que l'État fait ? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et l'État ne fait absolument rien. Ils vont partout dans les pays européens et tout ça. Pourquoi ils ne demandent pas aux autres comment ils font pour recycler leurs déchets ? Comment ils font pour trier les déchets, pour séparer tout ça ? Pourquoi ils ne le font pas ? Ce ne sont pas les moyens qui manquent.
Donc vous comprenez ceux qui appellent à la démission du gouverneur ?
Oui, le gouverneur doit démissionner parce qu'il a prouvé son incompétence. Il est là, il passe dans les médias, il vient avec la presse et tout pour raconter aux gens des histoires, demander aux gens, vous avez quelque chose à manger, tout ça, mais c'est n'importe quoi. Comment l'État peut dire, non, les gens sont là, ils vont toujours construire sur les lits des rivières et tout ça, mais qui délivre à ces gens-là les autorisations de bâtir ? Ce sont ces mêmes autorités-là.
Ouais, certains, effectivement, pointent du doigt les constructions anarchiques autour des caniveaux et le long des rivières, avec la complicité des autorités. C'est ce que dit par exemple Bahati qui nous écrit de Kinshasa. Bon, encore faut-il en avoir les preuves, mais c'est vrai que c'est un commentaire récurrent dans vos analyses envoyées sur les réseaux sociaux. Merci Josué, je voudrais qu'on donne la parole à Tim. Tim qui est dans le quartier de Bonhomme, dans la commune de Matete. Bonjour Tim.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Un peu soulagé ce matin, vous disiez au standard que l'eau commençait à se retirer dans votre quartier.
Ah oui, donc dans mon quartier à De Bonhomme, l'eau se retire petit à petit. Bon, les gens retrouvent leur quiétude d'avant la pluie, d'avant la crue, quoi.
Ouais.
Là, c'est ça. Mais par contre, d'autres quartiers comme Ndanou, Kingabwa, là, ils sont encore sous l'eau jusqu'en ce moment.
Mmh.
Ils sont encore sous l'eau. Et
vous avez été surpris par la montée des eaux, Tim? Ou par expérience, malheureusement, vous en avez pris l'habitude dans votre quartier?
Non, mais c'est une surprise parce que bon, moi, je suis dans ces quartiers il y a 3 ans. Bah, je n'ai pas encore vu ça. Les gens ont été surpris, disant que c'est la première fois que cette crue puisse monter aussi haut.
Mmh.
Et puis ça a surpris les gens. Parce qu'on peut expliquer que cette pluie, ce n'est pas les conséquences de la pluie de Kinshasa. Il y a eu une forte pluie au Congo central. C'est ça qui a rempli la rivière Njili, qui traverse les 4 communes, qui étaient Massina, Njili et Limété. Et toutes les personnes qui habitent le long de la rivière ont été vraiment inondées et des dégâts considérables.
Vous-même, vous avez subi quelques dégâts. Parce que vous disiez au standard que par endroit dans votre quartier, l'eau est montée à 3,50 m.
Mais oui, l'eau est montée jusqu'à 3,50 m. Les gens ont fui. Heureusement, ceux qui habitent les étages, parce qu'il y a des bâtiments qui ont 2-3 niveaux, le rez-de-chaussée rempli, les gens ont tout perdu.
Mmh.
Et par rapport à ça, Juan Gomez, tu vois le quartier Ndanou, et là on m'apprend qu'il y a eu des financements qui ont été faits en 2021, 15 millions d'euros donnés par l'Union européenne, ça a été détourné. 2023, des fortes pluies, le président lui-même est arrivé à Kingabwa. 2024, 86 millions ont été débloqués par l'État congolais. Ça a été bouffé.
Des sommes importantes débloquées pour faire quoi concrètement? Excusez-moi, Tim.
Non, c'était pour construire des digues.
Ah, pour construire des digues.
Le long de la rivière Njili pour que les gens ne soient pas inondés. Mais rien n'a été fait. Toute la somme était bouffée par ce qui nous dirige là.
Ouais. Tim, merci en tout cas de votre témoignage, de votre confiance. Serge nous dit sur WhatsApp dénoncer le manque de sérieux des dirigeants de Kinshasa et l'inefficacité des ministères de l'urbanisme et de l'habitat. Aucune politique d'assainissement sérieuse n'a été prise depuis les dernières inondations. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Les dernières plus importantes remontent à il y a 3 ans et le bilan était très lourd, 120 morts au moins à l'époque. Gratien, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous disiez au standard être finalement ce matin agréablement surpris par la rapidité de la mise en place de l'hébergement d'urgence pour les sinistrés.
Oui, parce que on était généralement habitué à des mesures annoncées, mais qui tardaient à avoir leur application effective. Mais là, aussitôt que le ministre Jacquemin Chambané a annoncé l'ouverture du centre à Tata Raphaël et puis au Stade de Martyrs,
oui,
les portes se sont ouvertes et...
Oui, mais enfin, Tata Raphaël, excusez-moi, j'écoutais ce matin notre correspondante à Kinshasa, 600 sinistrés ont été pris en charge. Excusez-moi, 600 sinistrés pour un stade comme le Tata Raphaël, c'est une goutte d'eau. Excusez-moi la référence, mais c'est très peu.
Oui, naturellement. Tout n'est pas parfait, mais au moins on voit que même si c'est dans la précipitation, ils ont pu faire quelque chose. Moi, j'ai craigné personnellement de voir que ces mesures ne connaissent pas d'application 2, 3, 4 jours après, voire 2 semaines. Mais là, c'est allé un peu assez vite, sauf que ça reste insuffisant et ce n'est pas ce qu'il faut pour un phénomène qui est devenu récurrent et que l'on peut prévoir.
Ouais. Et justement, prévoir, gouverner, c'est prévoir. C'est ce que vous dites, Georges. Bonjour.
Non.
Vous êtes à Kinshasa, Georges. Gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire quoi? Que ce matin, comme une partie de la société civile, des organisations de la société civile, vous demandez des démissions?
Juan, je voudrais d'abord profiter de votre antenne pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des membres et compatir aussi à nos amis qui ont perdu des biens matériels, des véhicules et tout ça à cause des manques de planification parce que la météo a annoncé déjà qu'au mois d'avril, il y aura de fortes pluies. Et on sait à Kinshasa, lorsqu'on parle de pluie, on parle d'inondation. Chaque année, c'est la même histoire. Hein. Les inondations, des promesses creuses. Aucune solution durable jusque-là.
Pourtant, le ministre Jacquemin Chabani a promis hier qu'à moyen terme, il faudra prendre des décisions fermes sur la réinstallation de toutes ces familles et sur la gestion des causes profondes de l'impact de ces pluies sur l'urbanisme. Là, les causes profondes, tout le monde les connaît, Georges.
Oui, c'est ça que j'ai dit, Juan. Le ministre peut dire ça, mais il ne dira pas ça aux morts. Ils sont en train de promettre, en fait. C'est vraiment l'impression que nous avons, que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement des promesses. Mmh. Il continue à promettre même aux morts, ce qui n'est pas raisonnable. On ne peut pas promettre des choses aux morts. Au moment où on a la capacité, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse anticiper ce genre d'histoire, parce que la météo avait déjà annoncé, mais... Curieusement, on est surpris.
Ouais.
On est surpris.
Ouais. Surpris, il y a Junior qui nous dit que les Quinois sont fatigués de subir. Vous partagez ?
Je t'ai dit, Juan, ce n'est pas fatigué. Nous sommes fatigués des promesses. Nous sommes fatigués des promesses. Hier, même le président promettait qu'il y aura une solution, des solutions adéquates qui vont venir. Ça viendra quand ? On ne sait pas. Mmh. Aujourd'hui, vous avez eu, vous-même, en direct, le témoignage des gens qui sont au stade des martyrs, soit papa Raphaël, qu'il y a un désordre indescriptible là-bas.
Ouais. Donc... Et alors justement, je voudrais qu'on parle de témoignage. On avait effectivement tout à l'heure un auditeur qui nous appelait du stade Tata Raphaël. Mehdi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Votre quartier était sous les eaux, disiez-vous, au standard ?
Oui, en fait, moi je suis dans les quartiers industriels, dans la commune de Limété. Nous étions sous les eaux, en tout cas, malgré que, en tout cas, il n'y a eu aucun dégât humain, mais il y a eu quand même des dégâts matériels, des dégâts économiques, des dégâts matériaux.
Quel type de dégâts avez-vous pu constater, Mehdi ?
Bon, il y a eu des portes qui nous ont emportées, et surtout, il y a vraiment, en tout cas, les femmes qui font du commerce, qui ont beaucoup souffert, en tout cas. Elles avaient du mal à se fournir auprès des fournisseurs, du mal à étaler leurs histoires, en tout cas, c'est un peu ça, et voilà.
Ouais. Et quelle leçon faudra-t-il tirer de cette tragédie, Mehdi ? Vous qui avez été fois-ci concerné, impacté, même si tout va bien, pas de dégâts matériels, pas de dégâts humains dans votre entourage, mais à l'avenir, Mehdi ?
Non, mais il faut qu'il y ait des sanctions, il faut que l'autorité démissionne parce que c'est anormal, on ne peut pas assister à ce genre de choses. Nous, si ce n'était pas une organisation formelle de jeunes, on aurait pu souffrir parce que les jeunes nous avons aidé à évacuer certaines personnes de véhicules pour que ça n'ait pas de taux d'incident. Mais
c'est-à-dire que vous avez contribué, vous, les jeunes du quartier, à sauver des vies de personnes qui étaient, si je comprends bien, coincées dans leur véhicule au moment de la montée des eaux.
Effectivement, il y avait déjà coincé dans le véhicule. Il y avait des véhicules qui inondaient d'eau. Mmh. Il fallait le mettre à côté parce qu'il y avait des véhicules qui n'arrivaient même pas à démarrer. L'eau montait, en tout cas. Marie, ça n'a pas fait des dégâts comme dans d'autres quartiers, mais c'était quand même déplorable.
Bon, en tout cas, bravo Mehdi pour cette initiative courageuse. L'armée a été déployée, notamment pour transporter les populations vers des sites d'accueil. Mais on voit bien que, et heureusement, il y a cette solidarité entre Quinois et Quinois, cette mobilisation au sein des quartiers. Merci à tous de vos témoignages, de votre confiance. On reste en contact, je vous le dis. On vous redonnera la parole vendredi dans la Libre Antenne, si vous le souhaitez, pour nous raconter comment évolue la situation dans vos quartiers respectifs. Demain, nous parlerons de la Côte d'Ivoire, où deux syndicats de l'enseignement public appellent à la grève pour 48 heures dans les écoles primaires et secondaires. Ils réclament notamment l'octroi et l'augmentation de primes. Seulement voilà, le gouvernement menace de licencier les enseignants grévistes. Qu'en pensez-vous ? Liberté syndicaliste remise en cause ou pas ? On en parle évidemment demain matin. D'ici là, prenez soin de vous. Reste à l'écoute de RFI, belle journée et on revient donc demain à 8h10 TU.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, il sera question de l'imagerie médicale.
Oui Juan, l'imagerie, outil de dépistage, de diagnostic, de suivi, de recherche et même de traitement. Des examens complémentaires utiles pour beaucoup de pathologies et même indispensables pour certaines spécialités comme la neurologie, radiographie, IRM, échographie, scintigraphie. Quels sont les différents moyens à disposition des radiologues et des soignants pendant l'émission avec nos invités? On va bien sûr aussi parler de l'accès à ces technologies.
Juste